8h14, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Il est le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour professeur Éric Côme.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Il y a encore quelques semaines, on évoquait une possible éradication, en tous les cas un objectif vraiment d'une très faible circulation du virus. Est-ce qu'aujourd'hui on a compris qu'on n'y arriverait pas? Vaccin ou pas, on va donc vivre avec ce virus?
Oui, écoutez, c'est ce que je dis depuis plusieurs mois. Effectivement, on va vivre avec le virus. Il va rejoindre la bande des quatre autres coronavirus avec lesquels on vit déjà depuis des décennies, sinon des siècles, et on vivra avec lui.
Donc l'option zéro virus était une chimère.
L'option zéro Covid était une chimère, effectivement. D'ailleurs, on voit les pays qui ont adopté cette vision, les îles notamment du Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande sont quand même en mauvaise situation. Quoi.
Alors, on le dit avec beaucoup de calme et de sérénité ce matin, mais moi je me souviens, professeur Éric Côme, il y a un an, vous aviez constaté et dit comprendre qu'on laisserait circuler le virus et certains ont dit, oulala, le professeur Éric Côme incite les jeunes à tomber malades, à être contaminés. C'était il y a un an.
Oui, bon, ça c'est, vous savez, c'est les politiques qui cherchent toujours des boucs émissaires et ils en avaient trouvé un bon en ma personne.
Il ne faut jamais avoir raison trop tôt, alors.
Oui, ça c'est clair que oui, il ne faut jamais avoir raison trop tôt, mais bon, qu'est-ce que vous laissez comme ça?
Mais sur l'immunité collective, vous aviez aussi vous-même, professeur Éric Côme, défendu cette immunité grâce au vaccin. Elle ne marche pas, l'immunité collective. On s'en éloigne aujourd'hui.
Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense au contraire qu'on
s'en
rapproche.
Certains infectiologues le disent.
Oui, peut-être, mais non, je pense qu'on s'en rapproche. Il faut être serein. On va y arriver progressivement. Effectivement, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais on va finir par s'immuniser collectivement. Alors, à titre individuel, cette immunité, elle soit naturelle, soit vaccinale. Je préférerais qu'elle soit vaccinale, je ne vous cache pas.
Mais vous mettez sur le même plan l'immunité vaccinale et l'immunité naturelle qui passe par une contamination?
Alors, elles ne sont pas tout à fait de la même qualité. Hein. Malheureusement, et l'immunité naturelle, par exemple avec le variant Alpha, ne vous protège pas forcément du variant Delta. Bah, c'est un peu pareil avec la vaccination. Elle est très efficace sur le variant Alpha. Elle est un peu moins efficace sur le variant Delta. Donc, je pense qu'il y aura on se réinfectera à minima avec des formes bénignes, voire inapparentes. Et puis, on arrivera à une immunité une fois qu'on aura rencontré le virus sous forme de ces différents variants quelquefois. Mais ça va se passer comme pour les autres coronavirus, enfin
oui.
Les quatre autres avec lesquels
on
vit.
Mais là encore, on le dit normalement, mais certains, quand on disait il faut passer par l'immunité naturelle, c'est certains s'en offusquaient, dire non, il n'y a que l'immunité vaccinale qui nous mènerait vers cette immunité collective. Aujourd'hui, on admet que l'immunité naturelle fait partie du dispositif pour arriver à cet objectif d'immunité collective.
L'immunité, on peut l'acquérir soit de façon naturel en acquérant la maladie, soit de façon vaccinale en ayant le vaccin.
Donc mais en laissant circuler le virus.
Oui, mais je recommande plutôt que les gens soient vaccinés. Hein. Il faut impérativement qu'ils soient vaccinés d'ailleurs.
Mais vous êtes un partisan, professeur Éric Côme, un défenseur du vaccin depuis toujours. Est-ce que vous avez été surpris que les vaccins ne soient pas aussi protecteurs que ce qui était prévu au départ?
Alors oui, c'est vrai que ça a été une surprise, mais il faut bien quand même constater que sur le variant Alpha, sur lequel il avait été testé initialement, le vaccin est très très efficace. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vrai qu'il est un peu moins efficace sur le variant Delta, mais ça, on ne le savait pas. On ne le savait même pas au mois de juin.
Oui, c'est pour ça que je demande aux spécialistes des maladies infectieuses que vous êtes, est-ce qu'il y a une forme de déception, d'incompréhension de cette moindre efficacité aujourd'hui?
Non, ce n'est pas une forme d'incompréhension, c'est une petite déception. Effectivement, après, on sait que en matière de vaccin, vous savez, c'est pas magique, hein. Le vaccin contre le papillomavirus, par exemple, il vous faut 3 injections pour qu'on considère que vous avez une immunité naturelle, enfin une immunité. Donc, il va falloir plusieurs injections pour avoir
professeur,
une immunité contre le Covid.
Le vaccin, ce n'est pas magique, mais on nous a dit, je me permets de dire impersonnel, qu'il allait nous débarrasser du virus aussi. Vous vous souvenez de cette phrase?
Moi, je n'ai jamais pensé que le vaccin nous débarrasserait du virus. Après, voilà, il y a des gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, effectivement. Mais ça n'allait pas avec... vous savez, aucun vaccin n'a permis... On ne s'est débarrassé d'aucune maladie infectieuse avec un vaccin, sauf la variole. C'est la seule maladie qui existe pour laquelle on s'en est débarrassé grâce à un vaccin. Donc, à un moment, il faut avoir un minimum de culture des maladies infectieuses, de culture historique et de connaissance dans sa discipline, qui est en l'occurrence les maladies infectieuses, pour essayer de dire le moins de bêtises possible.
C'est pour ça qu'on vous interroge ce matin, professeur Éric Côme. Qu'est-ce qui fait que des variants existent? C'est parce que le virus circule?
Oui.
Ou parce que la vaccination rend le virus plus résistant et il se bat donc pour muter, comme certains le disent?
Alors, Il y a effectivement une certaine ambiguïté. Alors, bien évidemment, c'est parce que le virus circule qu'il y a des variants qui naissent. Pour que le virus ne circule pas, ben, il faut avoir une immunité collective. Donc, plus on sera vacciné, ben, moins le virus circulera. Après, effectivement, il y a une possibilité, mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve, que laisser circuler un virus dans une population qui est à moitié vaccinée ou qui est mal vaccinée, ça puisse induire l'apparition de mutants qui contournent l'immunité conférée par le vaccin.
Donc il y a quand même un effet pervers éventuel, à vous entendre.
Potentiellement, mais pour l'instant, ce n'est pas démontré. Voilà. Mmh. Mais c'est potentiellement possible. En matière de virologie, oui, c'est tout à fait possible.
Ce matin, professeur Héricombe, dans Les Échos, un article souligne le retard français dans la vaccination des plus de 80 ans, qui contraste d'ailleurs avec notre vaccination dans le reste de la population. Est-ce que c'est notre talon d'Achille aujourd'hui ?
Oui, on n'est pas très bon chez les plus de 80 ans, c'est sûr. Enfin, globalement, on est quand même très très bon. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. J'ai été suffisamment critique pour reconnaître que là...
Bien sûr, mais c'est les plus fragiles, c'est pour ça qu'on s'intéresse à eux.
Oui, mais malheureusement, il faut aussi savoir que dans cette population des plus de 80 ans, c'est là où le vaccin... Enfin, vous savez, plus on vieillit, moins les vaccins sont efficaces. Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'immunosénescence, qui est le vieillissement du système immunitaire, qui fait que quand on a une stimulation vaccinale, ben, on y répond moins bien après 80 ans que quand on a moins de 20 ans. Voilà. C'est tout, c'est comme ça, c'est le vieillissement, c'est notre vieillissement.
C'est pour ça que la troisième dose est, selon vous, indispensable pour ce public des plus de 65 ans ?
Elle est indispensable, absolument.
Mais alors jusqu'où, professeur Héricombe ? Parce que troisième, puis quatrième, Israël se prépare à une quatrième dose de vaccin et des rappels tous les 6 mois. Est-ce que c'est ce qui nous attend ?
Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Il faut savoir que les Israéliens sont quand même un peu en avance par rapport à nous, puisque ce sont été les premiers à vacciner. En plus, c'est des très bons scientifiques. C'est une petite population. Ils peuvent la surveiller parfaitement. Donc, je suis effectivement... tout ce qui vient d'Israël en matière de vaccin Covid est très intéressant. Et effectivement, on suit globalement le même chemin à quelques mois d'écart.
Ah, le même chemin, quelques mois. Mais
on verra. Je ne sais pas ce qui en sera. Pour l'instant, commençons par vacciner correctement et avoir une couverture vaccinale correcte à 2 injections, de, si possible, 100% de la population,
mais
même si on n'y arrivera pas.
Puisqu'Israël est un laboratoire, si je comprends bien, une quatrième dose et des rappels tous les 6 mois, ça veut dire que l'immunité vaccinale tombe au bout de 6 mois.
C'est ce qu'ils ont montré effectivement. On a vu que l'immunité conférée par le vaccin baissait avec le temps et assez rapidement, oui, effectivement.
5-6 mois quand même, nous sommes dans un délai court. Hein.
Oui, mais après, vous savez, quand on va relancer l'immunité avec de nouveaux rappels, on va probablement prolonger la durée d'immunité et à mon avis, ça ne sera pas 6 mois, ça sera bien plus long. Je pense.
Professeur, et comme vous avez dit, considérer comme une évidence la vaccination des soignants, de manière pragmatique, parce qu'il ne faut pas contaminer les patients, de manière même philosophique, parce qu'évidemment, depuis votre poste et votre parcours, vous croyez en la science. Comment ça se passe dans votre service ? Est-ce que tous ceux qui travaillent avec vous sont convaincus de ce que vous dites ?
Bon, la plupart des spécialistes de maladies infectieuses, évidemment, sont convaincus de la des bienfaits de la vaccination.
Mais dans votre service, à la pitié,
qui ne le soient pas.
Les soignants.
Les médecins, il n'y a aucun problème. Les infirmières, il n'y en a quasiment pas. Il y a un peu plus de problèmes avec les aides-soignantes. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Je rappelle que les soignants sont de toute façon vaccinés par obligation contre certaines maladies, dont par exemple l'hépatite B, pour laquelle on disait à un moment que ça donnait des scléroses en plaques, etc. Et ça ne les a pas empêchés de se vacciner. On sait que ça ne donne pas stérose en plaques, hein, mais ça ne les a pas empêchés de se vacciner. Et bien là, je pense qu'il va exactement en être de même.
Mais racontez-nous concrètement, pardon de rentrer peut-être dans le détail de votre vie, mais professionnelle, quand vous allez à l'hôpital, est-ce que vous montrez vous-même votre passe ? Est-ce qu'il y a un système qui fait que vous pouvez accéder au service de la Pitié-Salpêtrière ?
Pour l'instant, je ne peux pas rentrer dans mon hôpital si je n'ai pas le passe sanitaire, oui.
Donc évidemment, vous montrez, si je peux dire, pas de blanche.
Voilà, exactement.
Vous et d'autres.
Oui, exactement. Toutes les personnes qui rentrent dans l'hôpital. Et sinon, si elles n'ont pas leur passe, on les teste à l'entrée des hôpitaux avec des stands pour les tester.
Comment vous définiriez l'état psychologique des soignants, en ce moment, notamment ceux qui travaillent avec vous et au-delà ? Comment sont-ils ?
Je pense qu'il y a une grande lassitude, mais y compris de nous d'ailleurs, les seniors, mais je pense qu'il y a une grande lassitude, une grande fatigue physique, mais aussi psychique. Il y a beaucoup de personnel en arrêt de travail. Il y a eu beaucoup un gros impact quand même sur les services, sur le plan psychologique.
Est-ce qu'on se rend vraiment compte, nous, j'allais dire, et puis plus largement, d'ailleurs, les pouvoirs publics de cet impact, parce que vous avez dit des arrêts de travail, peut-être des fermetures de lits, je ne sais pas, est-ce qu'on se rend compte des conséquences ?
Oui, malheureusement, quand vous avez trop de personnel qui est arrêté, il faut fermer des lits.
Mais vous comprenez, ça nous choque ce matin d'entendre qu'on ferme des lits dans une telle situation.
Ben oui, mais malheureusement, quand vous n'avez pas de personnel, on est obligé de fermer des lits. Je vous rappelle que le manque de personnel soignant est quand même un problème majeur dans notre pays, pas uniquement dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. C'est même encore pire dans les campagnes, où vous savez qu'il y a des endroits où on ne trouve même plus de médecins traitants. Donc, je pense qu'il serait urgent que les pouvoirs publics s'intéressent à ce problème qui, à mon avis, n'est pas prêt de se résoudre.
Sur le pass sanitaire, professeur Eric Combe, puisque même les vaccinés peuvent être contaminants, pourquoi l'appelle-t-on sanitaire? Est-ce qu'il a quelque chose de sanitaire, ce pass?
C'est une bonne question. Alors, je vous rappelle que quand le principe du pass sanitaire a été émis, on ne savait pas. On pensait que le vaccin serait efficace et très efficace. Et puis après, il y a eu l'émergence du variant Delta. Et effectivement, on s'est rendu compte que le vaccin était quand même très efficace. Il faut quand même pas exagérer, mais qu'il l'empêchait pas aussi bien qu'on le pensait les infections, voire même des formes bénignes de la maladie. Effectivement, on le savait pas quand ce principe du pass sanitaire a été édicté. Donc, on pourrait revenir en arrière. Mais enfin, c'est pas moi qui suis décidant là-dedans. Mais je pense que c'est très important sur le plan de la santé publique et sur le plan de l'éducation sanitaire de maintenir ce principe du pass sanitaire.
Mais pourquoi ? Puisque si nous sommes vaccinés dans ce studio, nous pouvons être contaminants. Quelle est son utilité sanitaire ?
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un terme sur lequel on pourrait revenir, le terme de sanitaire.
Vous l'auriez appelé comment ? Pass économique, politique ?
En ce moment, ça se transforme d'un pass sanitaire en pass socio-économique. Oui, je suis d'accord, mais c'est très important quand même.
Oui, parce qu'en plus, il peut être amené à être prolongé. Donc, c'est une vraie réflexion. J'imagine que le citoyen impliqué dans le débat public, professeur Eric Combe, se pose la question de la balance entre protection de la santé, via ce pass sanitaire ou économique, et libertés individuelles. C'est un débat qui vous interpelle?
Oui, c'est un débat qui m'interpelle, mais bon, je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme, sauf erreur de ma part, la liberté, enfin je ne connais plus la formule exacte, mais la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur la liberté d'autrui, me semble-t-il. Et donc je pense que c'est très important d'avoir cette vision collective, vraiment, et c'est une bonne occasion, cette épidémie, ce vaccin, ce pass sanitaire.
Donc c'est un satisfecit au gouvernement et peut-être au sommet de l'État, ce pass sanitaire pour vous, ou ce pass économique?
J'ai toujours dit ce que je pense. Enfin oui, je pense que c'est une décision courageuse, vraiment courageuse, mais une décision qui a été très utile. D'ailleurs, on a vu qu'après la décision d'instaurer le pass sanitaire, le taux de vaccination a augmenté de façon très importante et majeure. Et je crois que c'est une très bonne chose. Sur le plan de la santé publique, c'est un véritable geste de santé publique.
Geste de santé publique, pourquoi ? C'est une éducation à la santé publique ?
Voilà, c'est une éducation à la santé de la population. C'est les sensibiliser à l'importance de se protéger soi, mais aussi de protéger les autres. C'est sur ça qu'il faut insister. C'est une vision un peu
altruiste. Même si on reste contaminant, attention. Oui.
Voilà, on est moins contaminant, on est moins malade, on ne rentre pas en réanimation.
Dernière question, c'est en conclusion, c'est important. Je voudrais insister sur votre livre de la maladie de Lyme, professeur Eric Combe. Réalité ou imposture, la maladie de Lyme, en quelques mots, c'est une réalité, une maladie infectieuse transmise par une tique et qui donne une maladie, celle de Lyme. Mais vous dites qu'il y a aussi une imposture. Vous avez eu énormément de réactions. Vous avez été stigmatisé, même un journal, mais a même dit que vous aviez été admis en psychiatrie.
Absolument, oui, c'est vrai, mais c'est un journal notoirement complotiste auquel pas grand monde n'accorde d'importance. Mais enfin, voilà, moi j'ai accordé certaines importances puisque je l'ai poursuivi en justice.
Et nous avons lu le livre avec Dimitri. C'est un livre à lire vraiment pour découvrir cette maladie, ses conséquences aussi, de la manière dont vous en parlez. C'est à recommander, si je peux me permettre.
Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part.
Voilà, et la maladie de Lyme, il ne faut pas confondre avec d'autres pathologies, c'est un peu la thèse de votre livre.
Absolument,
que vous
développez. Absolument.
Une phobie de la maladie
exactement.
De Lyme.
Exactement.
Qui conduit à un surdiagnostic du Lyme et un surtraitement du Lyme et à des délires de prescription.
Ouais, ça concerne beaucoup de personnes.
Malheureusement.
Merci professeur Eric Combe, merci d'avoir été notre invité ce matin.
Merci à vous Sonia Mabrouk.
Merci professeur, merci Sonia Mabrouk.